2,5%, Hermès 2,2% et LVMH 0,8%. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RFI.
Merci Cécile Lecause et merci à vous d'écouter RFI. Il est 18h10 ici à Paris.
Radio G. 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et ça y est, les décos de Noël sont allumées, le marché est ouvert en centre-ville. Et bien sûr, le froid hivernal s'est définitivement installé dans nos rues. Bienvenue à l'écoute des agitations locales et culturelles du 101.5 FM. Ça va Julien ?
Ça va très bien et toi PB ?
Vas-y con, parce que là je reprends mon souffle.
Ah, bah il reprend son souffle parce qu'il a couru, il n'avait pas son conducteur mais il est à nouveau présent et il va pouvoir continuer l'introduction.
C'est ça, j'ai couru pour me réchauffer un petit peu puisque pendant 50 minutes, on va se divertir, on va aussi se cultiver et on va parler un petit peu d'histoire avec vous. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Alors le nom de famille c'est Vitard Gibien, c'est ça ?
Tout à fait.
Responsable du repère urbain Le Rue à Angers. C'est situé où ?
Alors, il est situé au 35 boulevard du Roi René, mais aussi un accès privilégié dans le Jardin des Beaux-Arts.
Ah ah ! Et avec vous, Olivier Biguet, conservateur et commissaire de l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre à Angers.
Tout à fait.
Alors, les 150 ans du Grand Théâtre, donc ça veut dire que c'était en 1860, le 11 novembre.
11 novembre, c'est une date assez facile à retenir, même si elle est postérieure au sujet.
Tout à fait. Tu connais le Grand Théâtre un petit peu, Julien ?
Je crois le connaître un peu, oui.
Oui, 150 ans, tu savais que c'était aussi vieux que ça ?
Bah, j'étais né à l'époque, hein. J'étais là pour l'inauguration, donc je me rappelle.
Et bah, tu pourras nous en parler avec nos invités de ce soir. Le programme de la semaine, quand même, puisqu'on est lundi, donc on va faire le programme. Jeudi, on recevra un berger et une vigneronne pour nous parler de l'éco-pâturage dans le département. Oui, deux métiers où justement en hiver il faut bien se couvrir. Mercredi, ce sera Julie Hardy qui organise avec son agence Galina des afterwork à Angers. Pour tout le monde, angevines, angevins, travailleurs ou pas pour se rencontrer. Ça va être super sympa, elle nous en parlera un peu plus largement. Demain mardi, c'est Flo et Mad du groupe Art Mythique du rap angevin. Nantais, c'est angevin ou nantais. Qui sort un clip, bah là, en fait, c'est sorti il y a à peu près 12 minutes. Donc peut-être qu'en fin d'émission, on fera un petit teasing. Bon, Julien, sinon la forme ?
Ouais, en pleine forme, là, après un week-end bien chargé, enfin pour cette semaine qui démarre.
Tu as fait quoi ce week-end ?
J'ai travaillé au théâtre, au Grand Théâtre d'ailleurs, il y avait Vincent Dedienne samedi soir. Et après, j'ai profité un peu, j'étais avec des amis.
Très bien. Voilà. Et bah, merci d'être là avec nous ce soir pour ce nouveau partenariat qu'on inaugure avec le RU.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Mais avant d'aller au repère urbain, on va faire un petit tour par la collégiale Saint-Martin avec Camille.
Envie de partir en vadrouille ? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons à la collégiale Saint-Martin, dans le centre-ville d'Angers. Ce bâtiment, c'est 2000 ans d'histoire et une architecture impressionnante. Ouvrons les portes de cet édifice plein de surprises. Nous entrons directement par la nef. Le bâtiment paraît immense et la blancheur des lieux en augmente ce sentiment. Lors de notre passage, une exposition temporaire est en place. Superbe et insolite. C'est une exposition qui regroupe des œuvres de différents musées angevins. Le but est de donner un style de cabinet de curiosité à la collégiale, grâce à des trésors atypiques du Maine-et-Loire. Et c'est réussi. On y retrouve par exemple une tapisserie du musée Jean Lursa à Angers, une coiffe du musée des coiffes et des traditions des Ponts-de-Cé, ou encore un avion venant de l'espace Air Passion de Marseille. Si l'envie t'en prend, tu peux découvrir ou redécouvrir cette exposition jusqu'au 2 janvier 2022. Ce petit plus qu'on aime voir à la collégiale Saint-Martin, c'est sa crypte. Après avoir descendu quelques marches, il y fait sombre et plus frais. Nous sont alors dévoilés des vestiges mérovingiens et gallo-romains. On foule la terre des pieds à la découverte des tombes ou des murs. Ce voyage dans le temps, on le fait aussi grâce aux sarcophages et coffrages en ardoise retrouvés, aux peintures médiévales ou encore grâce aux os et aux statues. Il faut quand même noter que la collégiale est l'église la plus vieille d'Angers. De retour dans notre réalité, nous devons déjà clore cette découverte. Pas encore rassasié ? Envie de remonter encore dans le temps ? Tu trouveras un peu plus bas l'hôtel Pincé. En plus de cette architecture superbe, tu pourras découvrir des vestiges des civilisations antiques méditerranéennes, précolombiennes et asiatiques. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous!
Merci Camille. Camille qui vous fait découvrir l'Anjou sur son compte Instagram et aussi dans l'onglet Podcast Plus du site de Radio G à l'Anjou avec Camille, tout simplement. Allez, maintenant, on se rue sur eux.
L'invité de Topette sur Radio G.
Maintenant, promis, ce sera le seul et unique jeu de mots à propos du repère urbain. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le RU, c'est l'ancien restaurant universitaire du Jardin des Beaux-Arts, qui accueille désormais un CIAP, pour Angers Patrimoine, l'Artothèque et les archives municipales. Rien que ça, non, j'ai fait une erreur, Stéphanie.
Non, pas du tout, Pierre-Benoît, c'est tout à fait ça. En fait, le repère urbain, qui est ouvert en 2020, accueille trois services municipaux, donc l'Artothèque, les archives patrimoniales et Angers Patrimoine, avec un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le fameux CIAP.
Rien que ça, c'est simplement le lieu où je veux aller sans cesse, si j'avais du temps. Donc avec nous, pour présenter ce lieu, justement, ce lieu unique, Stéphanie Vittard-Gibia, responsable du RU. Comment on l'appelle communément, le RU, on peut dire ça?
Oui, bien sûr, en fait, on a cherché un nom qui soit en adéquation avec la mémoire du lieu, le restaurant universitaire, et aussi avec sa fonction tout à fait particulière entre patrimoine et puis création. Donc on s'est dit qu'on gardait le RU, et avec le repère urbain, pour lui donner un petit une accroche un peu plus culturelle, en fait.
Alors, question toute simple, pourquoi avoir créé ce lieu début 2022, je rappelle?
2020,
pardon. Trop en avance.
Eh bien, en fait, trois services municipaux qui étaient dans des espaces plutôt exigus, avec peut-être un manque de visibilité, d'espace également, et puis cette belle envie aussi des élus de faire un lieu autour du Jardin des Beaux-Arts, où se trouve déjà la médiathèque, hein, tout ça, le musée des Beaux-Arts, la galerie David. On est déjà dans un écrin, hein, tout à fait patrimonial et exceptionnel, donc ça permet de compléter un petit peu cette ensemble culturel.
Mais du coup, où étaient situées les archives? Par exemple, les archives municipales, elles étaient où avant?
Elles étaient à l'hôtel de ville.
D'accord. Et du coup, pourquoi soudainement vouloir les bouger? Il y avait vraiment un intérêt?
Alors, il y avait un manque d'espace. Elles étaient situées au niveau moins 1. C'était pas très pratique. La salle de lecture était assez exiguë pour accueillir des visiteurs et des angevins. L'Artothèque se trouvait rue de Bressigny, dans une annexe de l'école des Beaux-Arts. Et le service Angers Patrimoine était dispatché sur deux sites, l'un dans la Doutre, dans l'ancienne usine Savaton, et dans une école, l'école Marcel Pagnol à la Roseraie également. Donc tout ça, c'était pas forcément très pratique, et les Angevins voyaient pas forcément bien les lieux pour venir y voir régulièrement des choses, ou consulter des documents.
Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut consulter les archives patrimoniales municipales, et ça, des fois, on l'ignore un petit peu trop, je pense. Donc d'où l'intérêt du RU. Juste, Julien, tu connaissais le RU?
Je le connaissais grâce au Grand Théâtre, en fait, puisque travaillant au Grand Théâtre, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui pensent que l'exposition sur les 150 ans du Grand Théâtre a lieu au Grand Théâtre, alors que non, c'est bien au repère urbain. Donc je le connais via ce moyen-là, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller.
Alors ne prends pas trop d'avance Théâtre. Olivier nous en parlera en seconde partie d'émission. Et on a plein de questions à lui poser. Stéphanie, le CIAP, qu'est-ce que c'est? Le Centre d'interprétation architecture et patrimoine?
Oui, alors en fait, Angers est une ville d'art et d'histoire. C'est un label qui a été attribué par le ministère de la Culture il y a déjà plus de 30 ans, en 1986. On est une des villes à avoir été très dynamique envers le patrimoine, notamment pour proposer des animations, des visites, des expositions. Et dans le cadre de ce label, avec le ministère de la Culture, il est prévu de faire un espace d'exposition pour accueillir les visiteurs, les angevins, et leur proposer justement des choses pour expérimenter la ville, pour mieux la connaître. Et d'ailleurs, vous avez sans doute remarqué, Pierre-Benoît, nous avons une magnifique maquette de la ville qui la présente dans son ensemble.
Alors, on trouve une maquette qui est très très belle. D'ailleurs, qui l'a faite, cette maquette? On peut peut-être citer ça.
Oui, alors c'est monsieur Benoît Septier, qui habite dans les Deux-Sèvres, qui a réalisé cette maquette sous forme d'un plan-relief.
et qui est très très intéressante avec plein de détails. Donc c'est une maquette qui est un peu figée dans le temps, puisque j'imagine qu'elle n'évoluera pas en fonction des s'il y a des nouveaux lotissements qui se créent ou des bâtiments, elle restera comme elle est actuellement.
Eh bien détrompez-vous, elle part tous les ans en atelier pour une petite mise à jour.
Ah ouais.
Donc si vous y prêtez bien attention, au fur et à mesure de l'évolution de la ville, hein, puisque la ville a de nombreux projets, eh bien la maquette s'adapte et se corrige.
Donc une grande maquette précise, à jour, à savourer, à contempler, vue du ciel un petit peu. On trouve aussi quelque chose qui s'appelle Angers 360 au niveau du rez-de-chaussée.
Alors oui, on a une table numérique avec une projection pour découvrir des lieux, soit des lieux inaccessibles parce que ce sont des lieux fermés au public, des propriétés privées, ou pour des raisons d'accès qui sont un peu dangereux, et ou tout simplement des sites qu'on souhaite faire connaître auprès des visiteurs avec un dispositif de photo dynamique à 360 pour proposer des visites virtuelles avant de découvrir la ville et de l'arpenter de manière physique.
Une question, Julien, non ? Non, je croyais.
J'étais très attentif.
Très attentif, c'est bien d'être attentif. On parle de lieux qui sont privés, du coup, inaccessibles à la visite. On peut peut-être en citer un ou deux, à Angers.
Ah, vous me prenez un peu de cours, là, tout de suite.
La Maison Bleue, par exemple.
Alors, oui, la Maison Bleue, ouais. Mais on n'a pas de photos 360 des intérieurs, ouais. Mais on a aussi, par exemple, l'abbaye du Ronceret, par exemple, les parties 18e de la Baisse, où en fait ce sont des lieux qui pour le moment ne sont pas accessibles au public, où on a fait des captations pour rendre public en fait des choses tout à fait exceptionnelles d'un point de vue patrimonial.
Et on peut peut-être faire une petite parenthèse sur Angers Pousse le Son, je crois qu'il y a eu un concert dans cette partie-là. Oui.
Alors, pas dans cette partie-là, mais dans le cœur de l'église abbatiale, qui est tout à fait remarquable aussi.
Donc Angers 360, à découvrir au rez-de-chaussée avec la maquette, il y a aussi une partie pour les enfants.
Tout à fait, c'est le repère des curieux. En fait, le service Angers Patrimoine a toujours eu cœur à faire des choses pour le jeune public, donc des activités pédagogiques, et il y a un espace qui leur est réservé pour qu'ils puissent également expérimenter l'architecture et le patrimoine avec des Legos, des dessins, des livres et plein d'autres choses encore, des rallyes par exemple.
Alors le rez-de-chaussée du repère urbain, le RUC, qui est dans les jardins des Beaux-Arts, sert aussi à accueillir des expositions, je crois, temporaires.
Alors tout à fait, le CIEP justement comporte deux espaces. Un qui est plutôt orienté vers l'histoire de la ville, son évolution, hein, de l'Antiquité à demain. Et une autre partie qui est plutôt dédiée à des expositions temporaires. Et c'est là justement où en ce moment il y a une belle exposition dont Olivier est le commissaire.
Voilà, et on en parlera, donc c'est à propos des 150 ans du Grand Théâtre, 11 novembre 1871 pour ceux qui avaient perdu la date. Mais on en reparlera un tout petit peu après, on va faire des pauses musicales. En attendant, pour revenir aux rues, du coup, là on était au rez-de-chaussée, si on monte, il y a ce qu'on appelle l'artothèque. Qu'est-ce qu'une artothèque, Stéphanie ?
Alors, l'artothèque est aussi un autre service municipal qui dépend du musée d'Angers. Et en fait, c'est comme le principe d'une bibliothèque, c'est qu'on est abonné et on emprunte des œuvres originales, plutôt graphiques, photographiques, mais aussi des œuvres vidéo, quelques sculptures également, sous forme d'un abonnement.
Alors c'est en rapport avec le patrimoine de la ville, j'imagine, ou pas du tout ?
Non, pas forcément le patrimoine de la ville, c'est plutôt en rapport avec la création, c'est vraiment la création contemporaine.
D'accord, mais qui est au-delà de la ville d'Angers, je veux dire, en termes géographiques, ça peut être des artistes, oui, qui viennent d'ailleurs.
Tout à fait.
D'accord, et il y a également des expositions, c'est au même endroit ?
Alors dans l'espace de l'artothèque, il y a également un espace d'exposition. Et en ce moment, il y a une belle exposition photographique sur l'architecture qui est participative, en fait.
Oui, avec j'ai perdu le terme. C'est des architectures, l'urbanisme vert un petit peu, avec des chemins piétons qui est pensé. C'est en plus, on peut voir l'histoire de cette évolution urbaine, je crois, au travers de la photo.
Bah, c'est deux Antoine et Capucine Laja qui ont fait effectivement une belle exposition photographique, à la fois créative, mais aussi documentaire, en fait. Sur l'habitat participatif, en fait.
Voilà, l'artothèque, est-ce que c'est un terme que tu connaissais, Julien ?
Non, avant l'émission, je ne le connaissais pas. Mais encore une fois, quand j'entends ce que tu dis, Stéphanie, ça me donne très envie d'aller visiter. Pourquoi pas prendre l'abonnement, prendre des œuvres, voir à quoi ça ressemble, déjà.
Alors, une vraie question, l'artothèque, c'est un néologisme ou c'est un vrai terme qui existe,
C'est un vrai terme, l'artothèque, ça existe.
C'est Olivier qui détient la réponse, apparemment. C'est un vrai terme, oui ?
Je pense, oui, puisqu'il n'est pas spécifique à Angers, ça se trouve partout en France.
Oui, bien sûr, oui. Alors l'Artothèque, le rez-de-chaussée, on en a parlé, et juste au premier étage, il y a ce qui est très intéressant, enfin que moi j'aime beaucoup, ce sont les archives municipales. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ces archives ?
Ce sont les archives patrimoniales de la ville d'Angers.
Oui, c'est le nouveau terme. C'est-à-dire qu'en fait, les archives, il y a des archives contemporaines, et puis à côté de ça, les archives maintenant qu'on va qualifier de patrimoniales, qui sont les archives anciennes, qui peuvent remonter au Moyen-Âge, jusqu'au, mettons, au 19e, début 20e siècle.
Donc ça veut dire qu'il y a un autre endroit à Angers où il y a des archives concernant la ville ?
Oui, qui sont donc à, plutôt côté mairie ou Angers Agglo, quoi.
Et là, ces archives qui sont donc au patrimonial, aux rues, on peut les consulter. Comment ça se passe ? On doit prendre rendez-vous, on doit demander, on doit faire attention. Les documents sont plutôt précieux, j'imagine. Comment ça se passe ?
Alors, ça dépend des documents que vous voulez emprunter. Alors là,
près du micro, Stéphanie.
C'est plutôt nos collègues des archives qui sont les plus avisés pour répondre. Mais en fait, on vient dans la salle de lecture pour consulter des ouvrages. Et qu'on peut d'abord faire une recherche aussi préalable pour voir ce dont vous avez envie d'avoir comme document. Et puis les collègues, selon les possibilités des documents, s'ils ne sont pas trop fragiles, peuvent vous sortir les documents pour que vous puissiez les consulter.
Donc, et les documents les plus fragiles, évidemment, sont pas vraiment consultables, mais ils sont numérisés. Donc si on veut consulter des documents du 16e, du 17e siècle, là, ça se fait plutôt de façon numérique.
Et alors, c'est ouvert, on peut peut-être donner des informations pratiques, les ouvertures, est-ce que tout est ouvert en même temps là, dans le rue où il y a des...
Alors, pratiquement. Donc, le rue est ouvert du mardi au samedi, de 12h30 à 18h. L'entrée est totalement gratuite. Et les archives patrimoniales sont ouvertes de 14h à 17h.
C'est gratuit également ?
La salle de lecture est tout à fait gratuite.
C'est aussi gratuit. Il y a un site internet, comment on fait pour se renseigner les auditeurs et auditrices qui voudraient se renseigner ?
Nous sommes des services municipaux, donc sur le site de la ville, sur angers.fr, vous trouvez toutes les informations relatives aux trois services et aux repères urbains.
Julien, tu as des questions par rapport aux rues ?
Ah, ça... Mais des questions, pas forcément, parce qu'en fait, je t'écoute Pierre-Benoît et tu me donnes très envie d'y aller, mais en fait, pour revenir sur ce que tu disais, Olivier, on a, même si on n'a pas accès aux archives d'origine, toutes les archives possibles sont disponibles numériquement, forcément.
Alors numériquement, pas forcément. Non, il y en a qui ne sont pas numérisées. Par exemple, je prends un exemple qui me touche de près sur le plan de l'architecture. Ce qu'on appelait autrefois les caisses sanitaires d'immeubles sont des archives du 20e siècle d'architecture, qui en fait à l'origine était d'ordre sanitaire. Ça, c'est pas encore numérisé. Et donc à ce moment-là, on peut demander à consulter les originaux.
D'accord, mais dans ce cas-là, on peut de toute manière accéder à toute archive qui soit. Qui
est disponible. Bah, d'une manière ou d'une autre, oui. Soit elles sont numérisées, et à ce moment-là, on peut les consulter de façon numérique. Et si elles ne sont pas numérisées, bah, à ce moment-là, on remplit des fiches à la manière ancienne, comme autrefois.
Olivier s'y connaît en archives, parce qu'il en a passé du temps dans les archives municipales patrimoniales de la ville d'Angers, pour justement nous mettre en place cette belle exposition des 150 ans du Grand Théâtre, qu'on va découvrir, mais on va d'abord faire une pause musicale sur Topette. On est toujours à l'écoute de Radio G, 101.5 FM. Et c'est Lully, on va rester dans le terme, je crois, dans le thème. C'est un buste qu'il y a de présent sur la façade du Grand Théâtre, Lully, je crois, Olivier.
Oui, tout à fait.
Eh bien, on écoute. retour sur Topette à l'écoute de Radio G 100.5 FM. On vient d'entendre Lully, alors c'est le ballet des muses, je crois, une musique tout droit issue du, j'ai essayé de ne pas me tromper, 16e siècle. 17e.
C'était de Louis XIV.
C'était ma première intention, et c'est vrai. Donc la quotidienne des agitations locales et culturelles, on donne ce soir la parole à l'histoire à Angers. On vient de découvrir ce qu'était le RU avec Stéphanie. Et on va maintenant se tourner vers Olivier Biguet qui vient de prendre la parole pour découvrir l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre d'Angers. 11 novembre 1871, pour ceux qui l'avaient encore oublié cette date. Avant ça, Julien nous propose justement une présentation de ce magnifique édifice qui dessine la place du ralliement.
Eh oui, Pierre-Benoît, c'est en effet parti pour le résumé express et aujourd'hui on s'intéresse donc au Grand Théâtre d'Angers. Comme on l'a dit, il fête cette année ses 150 ans, mais sa genèse remonte à la fin du XVIIIe siècle. Revenons donc quelques siècles en arrière. Nous sommes en 1794, en pleine période de terreur, et pendant que l'on coupe la tête à Robespierre, ce qui deviendra plus tard le Grand Théâtre d'Angers voit naître ses premières pierres. Un premier théâtre municipal voit le jour en 1795, place du Ralliement, en lieu et place de l'ancienne université. Au XIXe siècle, Angers vit une importante activité musicale, mais dans la nuit du 4 au 5 décembre 1865, horreur, terreur, un incendie détruit le bâtiment. La mairie décide alors de reconstruire le théâtre, reconstruction qui débutera en 1867 sous l'égide de l'architecte Alphonse Botrel, avant d'être remplacée par l'illustre Auguste Magne. Le nouveau bâtiment est inauguré en 1871, le 11 novembre. Il est constitué alors d'un vestibule, qu'on appelle maintenant le péristyle, d'une salle de spectacle, d'une scène et bien évidemment de loges à l'arrière du théâtre. Au cours du XXe siècle, de nombreux travaux viendront rénover le Grand Théâtre, notamment entre 1992 et 1994, pour aboutir à la version moderne et actuelle que l'on connaît aujourd'hui en 2021. Plus de 700 places, 728 exactement, parcourent ce théâtre à l'italienne au fauteuil rouge resplendissant, comme au premier jour. Théâtre, opéra, musique jalonnent la saison de ce magnifique objet architectural. Au fil de vos envies, n'hésitez pas à venir voir une pièce des hivernales du Festival d'Anjou, un opéra de l'Anneau ou encore un concert de jazz, il y en a pour tous les goûts, même le cinéma. Et oui, le temps d'une semaine en janvier, le Grand Théâtre se transforme en cinéma éphémère pour le festival Premier Plan. Vous l'aurez compris, le Grand Théâtre possède une grande histoire, mais surtout une grande actualité.
Eh bien, je trouve que c'est plutôt bien résumé, mais on va quand même demander l'avis à l'expert. Il prend des notes, donc peut-être qu'il y a des rectifications dans ce que tu viens de proposer.
Ah, peut-être, peut-être.
Non, c'est plutôt juste, Olivier, ce qu'a fait Julien.
On peut remonter encore plus loin dans le temps, mais ça ne sera pas forcément place du ralliement.
Ah oui, parce que je crois qu'il y avait un premier théâtre en bas de la
place... De la place Imbach, qu'on appelait autrefois la place des Halles, oui.
Imbach. Et c'est totalement invisible. C'est peut-être un des monuments qu'on peut admirer en G360, Stéphanie, d'ailleurs.
Ah non, parce que ce bâtiment, en fait, n'existe plus
en tant que
pièce de théâtre, en fait.
Donc il n'y avait pas assez de photos pour pouvoir s'immerger entièrement. Première question, Olivier, pourquoi célébrer ce monument, finalement, à Angers?
Parce que c'est un peu la quintessence de la ville du 19e siècle. C'est un des monuments phares d'Angers, c'est un des plus voyants aussi, au cœur de la ville, sur la grande place créée à la fin du 18e siècle, à la Révolution, et restructurée au 19e siècle. Et en fait, au-delà de la construction de ce bâtiment, qui est déjà spectaculaire, il a également été le point de départ de la nouvelle ville du 19e siècle, qu'on qualifierait d'haussmannienne, puisque la place du ralliement n'existait pas dans l'état où elle était auparavant. Et donc, c'est un peu les trois coups de la rénovation de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les grandes rues rectilignes, bordées d'immeubles haussmanniens, Carrefour Rameau, rue Voltaire, etc. Et donc la place du ralliement est en fait issue de la reconstruction, en quelque sorte, issue de la reconstruction du théâtre.
Julien, tu voulais réagir ?
Oui, parce que c'est vrai que quand je t'écoute, Olivier, j'ai l'image maintenant de la place du Ralliement, je m'y balade souvent, et de voir tous ces immeubles haussmanniens, ça rappelle finalement Paris. Oui. Et je crois que justement, à la fin du 19e siècle, la construction du Grand Théâtre par Botrel, puis ensuite par Auguste Magne, était dans cet esprit très parisien. Je crois que c'est Botrel, je crois, qui est arrivé deuxième au concours
de l'Opéra de Paris. Oui.
C'est ça, voilà. Et il a voulu insuffler aussi, inculquer cet esprit parisien de l'époque, de la fin du 19e.
Toutes les villes de province, effectivement, à partir du second, milieu 19e, Second Empire, Troisième République, veulent tous un peu copier l'urbanisme de Paris, les grands monuments et l'urbanisme de Paris. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire peau neuve sur un plan sanitaire, parce que les villes de province, Paris aussi d'ailleurs, étaient assez passablement insalubres. Et c'était l'occasion aussi de rénover les villes. Et ça, c'est, par exemple, ça s'est fait à Angers par les quartiers les plus insalubres, c'est-à-dire ceux au plus près de la Maine. Et au fur et à mesure, on est remonté sur la pente.
Et du coup, à l'époque, c'était exceptionnel de construire un grand théâtre, ou c'était simplement la mode et finalement, on pouvait en retrouver dans toutes les villes avant
On peut en retrouver effectivement dans toutes les villes importantes. C'est effectivement un bâtiment édilitaire emblématique de la société bourgeoise du 19e siècle. Et en plus, il n'y avait pas vraiment de théâtre auparavant dans beaucoup de villes, sinon dans quelques très grandes villes qui avaient commencé à construire des théâtres à la fin du 18e, le Grand Théâtre de Bordeaux par exemple, le Théâtre de la Place Gralin à Nantes, mais beaucoup de théâtres se sont construits effectivement à partir du Second Empire. Oui.
On parle, Julien évoquait le fait que l'architecte qui a dessiné les plans du Grand Théâtre d'Angers qu'on admire aujourd'hui sur la Place du Ralliement était celui qui était arrivé en deuxième position pour décrocher le contrat de la construction de l'Opéra Garnier à Paris, qui est quand même d'une grande renommée. Mais on va aller un peu plus loin et ça nous permettra de faire la transition avec l'exposition, puisque le Grand Théâtre d'Angers lui-même a été un peu copié, c'est-à-dire qu'il y a encore une suite, je pense, à ce qui se passe à Fougères. C'est à Fougères ?
Oui, c'est à Fougères. Effectivement, la façade, on a une façade assez baladeuse, puisqu'en fait, la partie centrale de la façade du Théâtre d'Angers, c'est la reprise de son projet parisien, donc il recycle à Angers son malheureux projet.
Plus modeste,
oui, certes.
Pour notre plus grand plaisir, quand même.
Et puis, effectivement, il y a un architecte départemental d'Ille-et-Vilaine qui a un peu copié sans trop de vergogne le théâtre d'Angers, mais en le réduisant, parce que là, Fougères, évidemment, c'est pas une grosse ville, le terrain était plus petit. Donc là, il a repris seulement l'avant-corps central, mais effectivement, dans l'exposition, on peut voir une photo du théâtre de Fougères. On n'a pas trop de difficultés à voir d'où ça vient.
C'est pas une ressemblance, hein, c'est vraiment copier-coller.
À quelques détails près, oui. C'est
en tout petit, quoi. Mmh. Alors justement, ça, on peut le découvrir dans l'exposition autour des 150 ans du Grand Théâtre. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette exposition, plus largement? Comment elle s'organise?
Alors, il y a deux parties qui, d'ailleurs, sont assez distinctes spatialement dans le lieu d'exposition. Une partie plus un peu introductive, parce qu'en fait, on avait la chance d'avoir des documents, parce que une exposition, c'est aussi la possibilité de montrer des documents que les gens ne peuvent pas voir. Et comme on a de très beaux documents sur les parties, sur les théâtres antérieurs à l'actuel théâtre, c'était l'occasion aussi de les montrer. Et donc, je fais remonter l'exposition à la Renaissance. Alors là, c'est pas un théâtre, mais c'est un jeu de paume. Ce qu'on sait assez peu, c'est que les théâtres sont issus en fait des jeux de paume de la Renaissance.
Et à Angers, c'était le fameux bâtiment en bas de la place Louis-Bach, c'est ça?
C'est ça, hein, oui. Oui, qui est déjà attesté dans un document de vente de 1566 et qui en ferait peut-être le plus vieux jeu de paume attesté en France.
Donc après l'histoire, ça se passe comment pour le Grand Théâtre? Il y a un premier bâtiment qui est ailleurs, finalement, et ensuite, comment ils migrent au
Alors, les théâtres, c'est une architecture assez récente en France, ils remontent au 18e, pour les plus anciens, parce qu'avant, il n'y avait pas de théâtre en tant qu'architecture. Souvent, les compagnies étaient nomades, et allaient se représenter soit dehors, soit dans des anciens jeux de paume qui avaient été conservés. Et c'est comme ça que ce jeu de paume en bas de la place Saint-Bac, le grand jeu des Halles, est devenu en 1762 le premier théâtre d'Angers, théâtre de la Comédie, au fond de l'impasse, qui s'appelle d'ailleurs toujours l'impasse de la Comédie.
Et dans l'exposition, ce qui est bien, c'est qu'on voyage dans le temps avant le Grand Théâtre, mais aussi, pas après le Grand Théâtre, mais on ne s'arrête pas au 19e siècle, on parle aussi de la Restauration, je crois, dans les années 90.
Alors il y a eu une histoire assez compliquée que je ne peux pas résumer ici, mais il y a eu plusieurs théâtre possible. Il y en a eu un effectivement qui s'est ouvert dans le bâtiment des anciennes écoles en 1795, qui a végété passablement. Et c'est sur ce premier théâtre que s'est construit vraiment le premier théâtre municipal, celui qui justement a brûlé en 1865 et qui va donc être remplacé par le théâtre que l'on connaît aujourd'hui.
Et
donc c'est un théâtre construit donc dans les années 1820 et inauguré en 1825 et qui aura donc duré 40 ans.
Donc ça, c'est, on découvre ça dans l'exposition.
Et donc on a les chances pour ce premier théâtre de Mathurin Binet d'avoir des plans, des coupes, des élévations, ainsi que des photos. Puisqu'on montre également, je montre également la place aussi parce que j'articule l'architecture du théâtre et la place du ralliement. Donc on voit en même temps la place du ralliement telle qu'elle était autrefois, celle de la première moitié du 19e. Et je montre également une gravure d'un incendie et une photo des ruines de ce premier théâtre.
Et tout ça, c'est montré du coup au repère urbain, dans le Jardin des Beaux-Arts. Il y a une adresse précise, Stéphanie ?
Oui, alors l'adresse, elle est au 35 boulevard du Roi René, puisque l'entrée principale se fait depuis le boulevard du Roi René, et également depuis le Jardin des Beaux-Arts.
Dernière question, Olivier, du coup, avant de faire une nouvelle pause. L'exposition, c'est uniquement là-bas ou alors il y a d'autres lieux ?
L'exposition d'architecture, non, elle est se tient uniquement aux rues, oui.
Mais il y a encore d'autres choses à découvrir. On parle du Grand Théâtre. Lui, il aimerait bien construire un panthéon pour recevoir les illustres angevines et angevins. C'est Calix Denis-Gremont avec son billet indépendantiste qui paraît chaque samedi dans Ouest-France et chaque lundi dans Topette.
Ce qui y est et ce qui n'y est pas. Ou du Robert, des Combes et du Ramasse-Bourrier. L'on fait, ces jours, beaucoup de cas et plus encore de polémiques, de l'entrée dans le dictionnaire Le Robert d'une invention singulière, le pronom « yel », contraction fusion de « il » et de « elle », visant à instaurer dans une langue française qui ne le connaît pas, un genre neutre, sur le modèle du « zé » anglais. Inutile de dire que, sans surprise, dans un siècle où tout est motif à crépage de chignon, la nouvelle met le monde de la lexicographie en émoi. Les grammairiens à deux doigts du pugilat, les universitaires au bord du collapsus. Vu d'Anjou, et particulièrement vu d'Anjou libre, le scandale du Robert réside moins dans l'entrée du pronom incriminé, dans un dictionnaire reconnu comme une référence dans l'ensemble de la francophonie, que dans l'absence de ce même dictionnaire de termes dont l'importance ne saurait être contestée par personne, en tout cas par aucune personne censée, demeurant entre la flèche et toire. Ainsi, l'on cherchera en vain dans les pages robertines ce qu'est une combe, quand chacun pourrait apprendre qu'il s'agit de la trace d'un choc sur une carrosserie, qui donne le verbe « comber ». L'on peinera à y trouver, et pour cause, il n'y est pas, le verbe « abernaudir », prévision de pluie. Il s'agit d'un verbe pronominal qui, comme le verbe « pleuvoir », ne se conjugue qu'à la troisième personne, ce qui explique que la plupart du temps, seul le temps s'abernaudit. L'on n'y rencontrera nulle part ce que signifie « barrer une porte »,« claver », entendez « fermer à clé ». Je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'il se trouvera parmi notre lectorat et notre auditorat nombre de quidam utilisant quotidiennement les mots cince, serpillière et son verbe cincer. Sans parler du ramasse-bourrier, indispensable à tout angevin, que je ne vous ferai quand même pas l'injure de vous définir. Ces mêmes quidam, et je ne veux là en rien insulter notre lectorat et notre auditorat, on ne mord pas la main qui vous nourrit, grassement, sans doute, ignore jusqu'à l'existence du pronom « yel » et comment judicieusement le glisser dans la conversation. En conclusion, « yel » si vous y tenez, mais « comme » d'abord.
Le billet indépendantiste de Calix Denis-Gremont à retrouver chaque samedi dans Ouest-France et chaque lundi sur le 100.5 FM, ici même, dans Topette. On continue à s'intéresser aux rues et à l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre, mais on va faire une nouvelle pause musicale. On va rester donc dans le thème du Grand Théâtre, justement. C'est un artiste, je ne sais pas si on peut dire artiste, compositeur plutôt, qui s'appelle Grétry. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur Radio G 101.5 FM. Oui, on écoute de la musique baroque, je crois que c'est ce style de musique, Olivier.
Oui, une musique là du 18e siècle. Oui.
18e siècle, c'était Grétry. Alors Grétry, tout comme Lully qu'on a écouté juste avant, ce sont deux compositeurs dont on retrouve les bustes sur la façade du Grand Théâtre.
C'est pour ça d'ailleurs que ça a été choisi.
Et oui, et ça c'est le genre d'information qu'on peut découvrir dans l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre, qu'on peut découvrir, qu'on peut suivre, admirer au repère urbain qui est, alors j'ai perdu l'adresse, c'est boulevard du Roi René du coup.
Au 35 boulevard du Roi René. Tout voilà. Simplement, vous rentrez par le Jardin des Beaux-Arts, c'est tout aussi facile.
Alors, avec deux entrées, par la rue du Musée et puis par la rue Toussaint, il y a deux possibilités de gagner le jardin.
Voilà, par toutes les entrées possibles, ce sera super. On va conclure du coup cette émission sur le patrimoine avec le RU, un nouveau partenariat d'ailleurs, bienvenue, merci de venir ici. Et aussi sur l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre. Olivier, question toute bête, dans 150 ans, qu'en sera-t-il du Grand Théâtre ?
Alors, il n'est pas encore classé monument historique, ce qui est assez étonnant, mais il a toutes les chances d'être encore là, sauf accident dramatique ruinant la ville d'Angers. D'autres villes ont connu ça. Il suffit d'aller en Normandie ou dans le nord de la France ou en Champagne. Des monuments qu'on aurait pu croire éternels et puis qui ont disparu. Mais sinon, non, il n'y a pas de raison de le voir disparaître. Il est enchâssé dans cette place du ralliement qui est un des lieux phares de la ville. Il a toutes les chances d'être conservé et protégé.
Et les Angevins, ils sont très attachés. C'est un grand marqueur urbain dans la ville.
Ah bah, sans ça, oui, on serait peut-être un peu perdu, place du Ralliement. On ne se repérerait pas. Je ne la retenterai pas, celle-là. Julien, tu as peut-être une dernière question par rapport à cette exposition.
Elle est disponible jusqu'à la fin de l'année.
Tout à fait, jusqu'à la fin du mois de décembre, oui.
Et après, plus possibilité de...
Alors, si on veut après revoir l'exposition d'une... Alors là, ça sera sous une forme numérique. Alors, on a quand même des documents papier. On avait créé, quand il y a eu la restauration en 1994, une publication du service de l'inventaire général dans la collection des itinéraires du patrimoine, qui est toujours accessible à vendre, à acheter aux rues. Et on a également ce qu'on appelle les focus ville d'art et d'histoire, qui sont des dépliants que l'on a fait sur un certain nombre de monuments de la ville. Et puis sinon, ben, on peut consulter quand les désagréments de la cyberattaque auront cessé, que en fait ces documents iconographiques que l'on voit actuellement dans l'exposition sont consultables en fait sur les bases numériques des musées, des archives patrimoniales et des archives départementales, qui sont donc les trois prêteurs institutionnels de l'exposition.
Très complet, merci Olivier Biguet. Donc oui, Stéphane, je vous laisse la parole juste après.
Je voulais compléter pour dire que pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir l'exposition, tous les samedis, nos collègues guides conférenciers ou conférencières proposent des visites gratuites de cette exposition, et il y aura même pour le jeune public des ateliers durant les vacances de Noël.
Et bien ça, tout ça, c'est à découvrir donc sur le site internet de la mairie. Je pense qu'on peut avoir toutes les informations. Info pratique. Merci beaucoup Stéphanie, donc responsable.
Merci Julien.
Responsable du RU, le repère urbain. Merci aussi Olivier Biguet, commissaire de l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre. Merci Julien, tu restes avec nous pour la fin de l'émission ?
Oui, je reste.
Parfait.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et puisque c'est Noël, du coup, Mathème nous propose un Noël made in Anjou.
Salut les Angevines, salut les Angevins. Moi c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission ? Vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs ? Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes. Nous partons ensemble à l'aventure. Le froid qui s'installe, les films romantiques au programme télé, les décos qui s'illuminent dans les magasins, vous le sentez aussi ? Noël approche doucement mais sûrement. Et Noël, c'est pour moi la période idéale pour apporter son soutien aux créateurs locaux. Alors voici quelques pistes pour mettre au pied de votre sapin plein de cadeaux made in Anjou. Le plus simple pour trouver un cadeau pour maman, tonton, mamie, le petit cousin ou encore sa meilleure amie, c'est de pousser les portes d'une boutique de créateurs locaux. Premier stop chez Au Cube Café, au 32 rue Maillet à Angers. Au Cube, c'est bien plus qu'une boutique de créateurs locaux. C'est un resto, un café, un bar, une épicerie locale, une friperie. C'est un lieu incroyable. Et c'est sans vous parler de cette coupole de 20 mètres de haut. Incroyable, je vous dis. C'est un lieu où vous trouverez plein de pépites locales, mais surtout où vous pourrez passer un agréable moment. Un arrêt à ne pas rater lors de votre prochaine virée shopping de Noël. Rendez-vous ensuite un peu plus haut dans la ville à l'atelier 41 place du lycée à Angers. Bijoux, maroquinerie, papeterie, céramique, luminaires, meubles, c'est plus de 30 créateurs du Grand Ouest qui sont exposés dans cette boutique. Vous y trouverez des cadeaux originaux et variés et à tous les prix pour faire plaisir à tous les membres de la famille. Partons désormais un peu plus loin à Sainte-Gemme-sur-Loire. La boutique Loire Créateur accueille 21 créatrices de l'Anjou. Parmi elles, entre autres, de la maroquinerie, du macramé, des bougies, de la céramique, une illustratrice, des bijoux, de la lingerie sur mesure, des fleurs séchées. Bref, plein de jolies pépites made in Anjou à découvrir. Dans ces deux dernières boutiques, vous pourrez également rencontrer les créateurs et créatrices qui tiennent à tour de rôle la permanence de leur boutique. Une superbe occasion d'échanger avec eux sur leur travail et leur apporter de vive voix tout votre soutien. Les réseaux sociaux sont une autre alternative pour trouver des cadeaux angevins. En novembre 2020, face à un nouveau reconfinement, Mathilde et Lou de l'entreprise Sibylline Escapade ont créé le groupe Facebook Noël en Anjou, soutien à nos commerçants. Ce marché de Noël virtuel a permis à de nombreux entrepreneurs locaux de se faire connaître et aux acheteurs de les soutenir. Le groupe compte aujourd'hui 16 000 membres. Face à ce succès, l'expérience est réitérée pour ce Noël 2021. Chaque jour, jusqu'à Noël, c'est une dizaine de créateurs et créatrices angevins-angevines qui sont mis en avant. Pour retrouver toutes ces bonnes adresses et leurs horaires d'ouverture, rendez-vous sur mon blog matem.fr. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager sur mon compte Instagram matem. Je serai ravie de les partager à mon tour.
Voilà, voilà, tout est dit, merci beaucoup. Donc Stéphanie, je crois qu'il y avait encore 2-3 informations à rajouter avant d'entendre ça dégouline dans le cornet sur le 101.5 FM.
Tout à fait, merci Pierre-Benoît. Je voulais juste vous inviter à venir découvrir l'exposition Apocalypsis d'Esmeralda da Costa, une jeune artiste qui a fait sa première résidence au Repère Urbain et qui donne une interprétation de l'attentat de l'Apocalypse d'Angers avec les temps que nous traversons, et c'est quelque chose de tout à fait intéressant à venir découvrir aux rues. Et n'oubliez pas, le rue est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
Et ils sont actifs, ils postent de belles photos, des fois des archives, des vieilles photos de la ville comme elle était autrefois. Merci beaucoup Julien.
Merci PB.
On se revoit cette semaine ?
Oh, on se revoit peut-être mercredi ou jeudi, oui.
Ok. Demain soir, nous accueillons Armitic qui a sorti un nouveau titre, un nouveau clip dont on pourrait le diffuser maintenant, mais on va garder un petit peu le suspense jusqu'à demain soir. Allez, prenez soin de vous et topette.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur les 101.5 de